Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être artiste. Donc après le bac, ça a été tout naturel. J'ai passé le concours des Beaux-Arts. Donc j'ai étudié aux Beaux-Arts de Rennes et d'Angers pendant 5 ans. Et après, je suis partie à Bruxelles. J'ai choisi Bruxelles parce que je m'intéressais déjà beaucoup à la danse contemporaine, au corps. Donc quand j'étais à Angers, je travaillais avec des danseuses contemporaines au CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. Et donc je suis partie à Bruxelles parce que je sais qu'il y avait des chorégraphes que j'aimais bien et que c'était une ville qui m'attirait vraiment pour le foisonnement artistique. Et alors après ça, j'ai fini mes études, j'ai complété mon cursus avec une année à la Cambre. Et après, j'ai passé l'agrégation en arts visuels, ce qui m'a permis d'enseigner la photographie dans le secondaire et le supérieur. Et j'ai en même temps démarré ma démarche d'artiste. Et là, depuis 3 ans, vraiment, je suis en freelance et j'ai une activité de photographe et j'expose en parallèle. Mais donc, je me suis jamais vraiment posé la question, c'est que je crois que c'est vraiment ma passion et je ne me serais pas vue faire autre chose.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans la photographie ?
Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai toujours été très attirée par la scénographie, le stylisme. Donc en parallèle de mes études, j'ai fait des stages par exemple à l'Opéra de Rennes en scénographie. J'ai pris des cours de couture pendant 1 an. À un moment donné, j'hésitais à être costumière de théâtre. Et j'ai démarré ma carrière de photographe en étant photographe de spectacle vivant. Donc comme je disais, j'aimais beaucoup la danse contemporaine, donc j'ai pris énormément de photos. À Aix-en-Provence, il y avait un festival de danse, à Marseille, au festival de Marseille. Et j'adorais la scénographie, les décors. Et parfois, je me disais, mes photos sont belles, mais c'est parce que les univers des pièces de théâtre que je photographie me plaisent, mais parfois moins. Mais ça a été vraiment extrêmement nourrissant. Et à un moment donné, j'ai voulu franchir le cap en me disant, tu vas créer tes propres mises en scène. Et c'est ça que j'aime dans mes photos, c'est que moi, je ne suis pas du tout dans le courant de la photographie documentaire ou prise sur le vif. Moi, ce que j'aime, c'est la photographie tableau, c'est-à-dire que c'est une photographie qui est pensée en avance. Donc ce que j'aime, c'est souvent trouver des lieux abandonnés ou des lieux qui ont une âme, qui sont vraiment poétiques. Je prends des photos du lieu vide, quand je le peux. Si c'est vraiment à l'étranger ou loin, je fais des recherches sur Internet pour vraiment voir les lieux. Et j'écris mes scénarios, je réfléchis au stylisme, je choisis mon modèle, la lumière, les accessoires. Donc c'est vraiment une mise en scène globale. C'est pour ça que le fait d'avoir été photographe de spectacle et d'avoir pris des cours de couture, de m'être beaucoup intéressée à la mode, au stylisme, aux accessoires, tout ça, en fait, c'est vraiment... mes photographies sont un peu un écosystème, c'est que chaque élément a son importance dans l'image.
Une fois que tu as fait ce travail de repérage et que tu as pris, on va dire, des photos test, des photos de travail, est-ce que ce travail de composition, ça peut s'approcher à ce qu'on appelle le storyboard dans le cinéma ?
Exactement. C'est vraiment la même chose parce que quand même, j'ai un fond. Ce sont des mises en scène photographiques, mais je m'inspire aussi. Il y a un côté documentaire du lieu tel qu'il est. Et donc, par exemple, j'ai fait une autre série qui s'appelle Stranger in the Day, qui a été réalisée dans un hôpital psychiatrique abandonné. Et là, je me suis complètement inspirée des accessoires et du fait que ça soit un hôpital. Donc, par exemple, il y avait des valises d'anciens patients. Je les ai utilisées dans mes mises en scène. Et le thème était vraiment la folie douce. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que lors d'une expo, il y a une psychiatre qui m'a acheté des photos et qui m'a dit « Mais je revois tellement des scènes que je connais régulièrement en hôpital psychiatrique. » Et donc, c'est vraiment proposer une mise en scène, mais pour le lieu. Donc, c'est un travail in situ où c'est mon univers, mais que je vais amener dans un lieu et je vais faire revivre le lieu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc là, par exemple, dans la série qui est présentée ici pour l'exposition, ce sont 2 photographies qui sont extraites d'une série qui s'appelle Waiting for Him. Ça veut dire en l'attendant, c'est l'attente du prince charmant. Et là, je cherchais vraiment des lieux poétiques. Donc il y a une partie qu'on voit pas dans l'expo qui a été réalisée dans un parc d'attractions abandonné en Belgique et l'autre, qui sont les 2 photographies qui sont proposées ici, qui ont été réalisées en Hollande. Parce que je voulais vraiment des paysages de bord de mer merveilleux. Et donc, par exemple, dans celle avec la voiture Barbie, ce qui fonctionne bien, c'est la taille du chemin. Pour que ça fonctionne au niveau des échelles et qu'il y ait ce décalage, il fallait vraiment que je trouve un chemin qui était tout petit, tout petit. Mais pour l'anecdote, en fait, j'avais fait mes recherches de lieux sur Internet. Et là, pour des questions financières, je ne pouvais pas me déplacer avant. Et j'étais un peu déçue des paysages en arrivant. Du coup, j'ai remis en question le projet. Je me suis dit, il faut qu'on trouve autre chose. Donc là, on est monté en fait à Haarlem. C'est à côté d'Amsterdam, côté mer. Et là, vraiment, j'ai trouvé les paysages parfaits pour réaliser mes mises en scène. Donc même si tout est préparé à l'avance, je laisse toujours une place aussi au réajustement et à l'inattendu. Parce que dans mon travail, je m'inspire beaucoup d'un concept en psychologie qui vient des États-Unis qui s'appelle la sérendipité. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, c'est le fait de trouver autre chose que ce qu'on attendait. Et alors ce concept-là permet, c'est un peu une attitude de vie parce que ça veut dire d'être prédisposée à la rencontre, au merveilleux, aux choses exceptionnelles, mais il y a aussi beaucoup de trouvailles dans la vie qui ont été faites, même des brevets scientifiques, etc., qui ont été faites par des accidents heureux. Et ils ne cherchaient pas ça, et finalement, tout d'un coup, ils ont trouvé quelque chose. Et donc, même si moi, j'écris mes scénarios, je laisse toujours cette place à l'inattendu. Et il y a une citation de Jean Renoir que j'adore, qui a toujours vraiment été une citation que j'ai en tête dans mon travail, qui dit « Il faut toujours laisser la porte ouverte sur un plateau de tournage ». Et cette phrase, lui, il la disait parce qu'il disait bah, « À un moment donné, il y a quelqu'un qui peut débarquer sur le plateau qui n'était pas prévu et ça va changer la scène, mais en positif, ça peut provoquer quelque chose ». Et donc moi, dans mon travail, je pars d'un point A, je sais où je veux aller, mais quelque part, le chemin en cours du processus, il peut changer de lieu ou de personne en fonction de, bah, des aléas de la vie ou d'une rencontre de quelqu'un qui va me parler de quelque chose qui va faire que mon propos va peut-être changer ou évoluer. On me dit, ah oui, ça c'est peut-être intéressant. Voilà, donc c'est vraiment, même si les choses sont écrites, laisser vraiment une part quand même à l'inattendu.
Waiting for Him, c'est le nom de la série dont sont issues les deux photos qui sont exposées à MEMAC. Attendre le prince charmant. C'est quoi le prince charmant pour toi, dans ton œuvre? Et quelle importance pour le masculin et pour le féminin dans ton travail? A priori, là, le masculin est réduit à la portion congrue.
En fait, ce qu'il y a de très drôle, c'est que je joue avec cette figure du prince charmant. Je me suis vraiment inspirée d'un sociologue qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann, qui a écrit un livre qui s'appelle « La jeune fille seule et la figure du prince charmant ». Et donc, je l'ai lu, ce livre, et il a recueilli plein de témoignages de femmes célibataires, et il explique en fait que l'image du prince charmant hante le rêve de toutes les jeunes filles. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses sur l'image du prince charmant, où d'ailleurs, il y avait une personne qui a écrit un mémoire de fin d'études, et qui était très chouette, où elle critiquait complètement le prince charmant en disant mais en fait il est débile le prince charmant parce qu'à part être brave et courageux, on valorise pas du tout le côté intellectuel. Je trouve que c'est très intéressant, c'est que en fait en tout cas dans ma génération on a été élevés avec ces contes de fées où nos mamans nous berçaient le soir en disant il faut que tu attendes le prince charmant, et en fait la femme moderne est tiraillée entre cette espèce de rêve encore d'attendre le prince charmant qui va la sauver, parce qu'en fait il y a aussi ça derrière l'idée du prince charmant, c'est mettre la femme dans une position d'attente, de passivité et du syndrome du sauveur, de l'homme qui va arriver par magie, qui va faire waouh. Et dans mon travail, moi j'en rigole de ça, parce que dans cette photo, Ken est ridicule, il est avec sa voiture de Barbie, donc on a tous l'image du Ken, de l'homme un peu plastique et très centré sur son physique avec sa voiture bling bling, mais là dans cette photo là il est complètement ridicule parce que c'est un jouet, il est petit et qu'elle, elle paraît, on voit pas son visage, donc ça c'était aussi une volonté que toutes les femmes puissent se projeter et que ça soit pas une personne en particulier, ça parle à toutes les femmes, mais au final elle continue sa route et elle s'arrête pas, et ça je trouvais ça intéressant de jouer avec ce truc de, c'est pas la fille qui attend le mec qui va la sauver, qui arrive avec sa grosse voiture qui roule des mécaniques, non, là Ken il est réduit à un jouet, il est tout petit dans sa voiture et la fille elle continue. Mais après, moi je suis féministe, mais vraiment dans la définition de l'égalité homme-femme. J'ai beaucoup d'amis hommes qui sont féministes aussi. Pour moi, c'est pas du tout une insulte d'être féministe, c'est quelque chose de normal, de vouloir une égalité homme-femme. Et voilà, et je prends aussi d'ailleurs des hommes dans mes photos. Je réalise aussi des books pour des comédiens, des artistes. Alors certes, c'est vrai que j'ai un univers qui est féminin, mais je n'exclus pas du tout les hommes dans mon travail.
Dans la première photo, on voit une jeune femme qui semble vraiment attendre le prince charmant. Il y en a deux à ses côtés, mais c'est comme si elle ne les voyait pas. Dans la seconde photo, il y a, comme tu le disais, Ken. C'est pareil, on dirait que la jeune femme n'y prête pas attention, elle ne le voit pas. Est-ce que le prince charmant, en plus d'être ridicule, il n'est pas forcément décevant et du coup invisible?
En fait, c'est marrant que vous ayez vu ça. C'est que moi, dans l'idée de cette photo, c'était plus sur l'idée du jeu enfantin. Parce que quand on est petit, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'éducation à la sexualité, elle se fait par le jeu des Barbies. Quand on est petit, on s'amuse tous à prendre des Barbies, des Ken, et de dire, oh, ils font l'amour, c'est papa, maman. Donc il y a plus ce jeu, en fait, qu'on se crée. Et donc voilà, c'était plus le fait de se raconter des histoires, d'être dans l'imaginaire, de se dire comment on sera plus tard et de jouer avec ces Barbies. Après, effectivement, le problème aussi du prince charmant, c'est que ça met une pression parce qu'il y a une attente. L'attente génère des fantasmes et des choses qui sont irréelles et qui font que de toute manière, si la femme, elle continue d'attendre le prince charmant, elle va être déçue. Alors c'est vrai que moi, je suis une éternelle romantique et que je rêve beaucoup parce que mon travail, il est très autobiographique. le thème, c'est l'attente de l'amour, mais c'est parce que j'attends l'amour que je travaille sur l'attente de l'amour. Et qu'en attendant l'amour, bah, je réalise des mises en scène pour m'occuper. Et souvent, mes amis, en rigolant, disent « Oui, mais le jour où tu auras trouvé ton prince charmant, sur quoi tu vas travailler ?» J'ai dit « Oui, mais bon, je travaillerai toujours sur l'amour d'une autre manière, pas forcément que sur l'attente. » mais voilà, mais c'est sûr que cette question est intéressante, c'est que plus on attend, plus on a des attentes qui peuvent être peut-être hautes, et que c'est bien de vivre dans la réalité. Mais alors après, par rapport à ce thème de l'attente, il y a aussi une autre référence qui est très importante pour moi, qui est de André Breton, le poète surréaliste, qui a écrit des choses sur l'attente, notamment une citation que je trouve très jolie. Indépendamment de ce qui arrive ou n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. Et donc lui, en fait, il y a eu donc cette conférence sur France Culture qui était vraiment passionnante. Donc j'invite les auditeurs, s'ils veulent, à taper André Breton, l'attente, et ils vont tomber sur ce lien de cette conférence sur France Culture qui est vraiment très, très intéressante. Où lui, il disait que justement, tous les jours, il sortait pour vraiment provoquer la rencontre ou l'inattendu. Et lui, c'est vraiment dans ce sens, André Breton, le précurseur de la sérendipité, parce que il cherchait, et je pense que pour, de toute manière, avoir de la chance, il faut sortir de sa zone de confort et aller rencontrer pour qu'il se passe quelque chose.
Dans tes deux photos, on trouve deux fantasmes qui se font écho. On trouve le fantasme d'un amour enfantin, d'un amour entre guillemets pur, romantique, rêvé, idéalisé. Et on trouve aussi un écho, un fantasme beaucoup plus adulte. Il y a quand même une sorte de sexualité un peu sous-entendue dans les photographies. Comment tu trouves l'équilibre entre le fantasme enfantin et le fantasme adulte dans la composition de tes photos ?
Effectivement, j'ai toujours eu un univers très enfantin. Donc ça, et d'ailleurs, une personne qui s'appelle Géraldine Michel, que je cite parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est professeur à la Sorbonne, m'avait sélectionné pour participer à un ouvrage qui s'appelait « Quand les artistes s'emparent des marques ». Et donc, elle avait pris mes photos parce que je travaillais avec des marques comme Barbie, etc. Et moi, j'aime bien utiliser des marques qui ont bercé notre enfance. Dans cette série-ci, par exemple, on ne le voit pas, mais j'ai travaillé aussi avec le téléphone Fisher-Price, avec le Scrabble, avec des jeux vraiment qui sont atemporels et qui ont vraiment bercé notre enfance. Donc ça, cet univers-là, j'aime beaucoup. Alors après, c'est très intéressant sur cette question de la sexualité. C'est que, par exemple, les chaussures rouges, ce n'est pas du tout un hasard. C'est parce que donc, j'ai beaucoup lu de choses sur les contes de fées, et notamment le livre « Psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bethlem. Et dedans, il expliquait que vraiment les souliers rouges, c'était le passage de l'enfance à la féminité. Donc c'est vraiment choisi le fait qu'elle ait cette robe rouge, c'est effectivement l'image de la femme. Je pense aussi que comme mon travail est très autobiographique, moi je suis petite et on m'a toujours dit voilà, que j'avais un côté femme-enfant, et donc c'est pas hasard dans le choix des modèles que je représente. À chaque fois que je travaille avec des modèles, elles ont toujours ce côté femme-enfant. Et même dans mes références et mes inspirations, j'ai toujours aimé l'adolescence, le passage vraiment d'une jeune fille qui sort de l'enfance avec ses rêves, son imaginaire, et le passage à la femme adulte. Après, c'est vrai que peut-être que c'est parce que moi, je suis restée une femme-enfant et que je suis comme ça, et que je suis dans un monde de rêves et d'imaginaire, et que ça me rassure, et que parfois je trouve que la vie est dure et que je préfère rester dans ce monde-là qui me protège.
On a oublié de dire que la nature avait une très grande importance dans ces deux photos. Il y en a une qui est sur une plage. Dans les deux photos, l'herbe et le ciel ont une très grande importance. Est-ce que c'est pour donner un côté universel et intemporel aux photos ?
J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que je suis bretonne et donc j'adore les ciels nuageux. Je n'aime pas du tout les ciels bleus sans nuance. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de richesse et de profondeur dans un ciel qui est nuageux. Parce que je dis toujours, en fait, moi, mes mises en scène, j'appelle ça des fictions empruntées au réel. C'est-à-dire que je pars de sentiments humains, mais j'aime beaucoup réaliser des fictions dans le sens que ce qui m'intéresse, c'est que chaque spectateur peut imaginer sa propre histoire. Donc je mets en place des choses. Moi, j'ai mon histoire personnelle qui me conditionne dans l'écriture de mes scénarios, mais chacun, en fonction de son vécu, va se raconter sa propre histoire par rapport à la scène. Et ces ciels nuageux, pour certaines personnes, ça peut donner quelque chose d'un peu étrange ou inquiétant par rapport à la scène, qui permet aussi de se détacher du côté cliché carte postale, parce que le ciel bleu, c'est comme un coucher de soleil, c'est un côté très cliché, stéréotype, alors que là, ces nuages amènent quelque chose, enfin moi en tout cas, je le vois comme quelque chose de peut-être un peu inquiétant. En même temps, les nuages, ils bougent, donc j'essaye comme je vous dis, comme je suis bretonne, j'adore, pour moi, les plus belles lumières, c'est quand il a plu et qu'après, il y a une éclaircie, un petit peu de lumière. Donc, ça met de la matière, un volume, ça permet de quand même de... Là, elle a le soleil sur son visage, donc c'est beau, je trouve qu'elle ressort bien. Mais ces nuages participent vraiment à la scène. Et dans l'autre, c'est vrai que le ciel, il est gris comme ça. Et j'adore ces ciels-là. Je trouve que c'est vraiment très beau. Et au niveau de la chromie, je vous dis, je suis partie en Hollande parce que je recherchais vraiment des paysages. Et la nature aussi a énormément d'importance dans les contes de fées. Il y a toujours une part de nature... Et ça aussi, c'est très juste ce que vous avez dit quand vous avez dit « oui, c'est pour cette dimension atemporelle ». Effectivement, parce que les contes de fées, ça date d'il y a très longtemps et c'est quelque chose qui se perdure de génération en génération, d'histoire qu'on se raconte. Et donc, j'essaye d'avoir un paysage qui va vraiment être très atemporel.
Sur la deuxième photographie, celle avec Ken dans sa voiture rose, dans le fond, on trouve, alors je ne sais pas ce que c'est, un pavillon, un hôtel, un bâtiment un peu lointain. Est-ce que ça a été compliqué de composer cette photo pour que ce bâtiment donne une échelle crédible à la voiture de Ken ?
Au début, je ne pensais pas forcément faire ce cadrage-ci. J'arrive, je vois ce chemin. Et c'est là où je me dis l'inattendu, c'est que j'avais sur Internet trouvé des lieux. Finalement, j'étais déçue en arrivant. Et le lendemain, j'ai dit à ma modèle, écoute, ok, c'est pas grave, ça rajoute peut-être des frais, on remet de l'essence, on part plus loin. Mais je voulais trouver l'endroit idéal pour faire cette photo, parce que vraiment, j'y croyais. Et quand je suis arrivée, que j'ai découvert ce chemin, il y a eu vraiment un truc de « waouh, c'est super ». Et je ne sais plus si c'est accidentellement ou pas, je sais que je l'ai prise de très basse, du coup, cette photo. J'en ai quand même fait plusieurs, justement, et j'ai vraiment choisi, parce qu'en général, chaque image, j'en fais peut-être 20, 30, 40, 50, parce que je fais différents cadrages, et vraiment, je choisis après. Et je sais que quand j'ai pris ce cadrage-ci, en coupant la tête, en n'ayant que les jambes, et en ayant effectivement ce pavillon, parce que ça aussi, j'ai adoré l'architecture en Hollande, et donc il y en a d'autres où je les ai encore plus valorisées, parce que j'aime bien ce côté un peu chalet, un peu... inspiration scandinave, où du coup, par rapport au conte de fées, à la forêt, à ces cabanons de bois et tout, ça allait parfaitement dans l'univers. Mais je voulais effectivement qu'on devine juste les toits de ce bâtiment, qu'on les voit pas trop, mais c'est pas non plus pleine forêt, il y a quand même une civilisation derrière, juste assez pour signifier qu'il y a une civilisation derrière, mais pas plus. Mais donc voilà, mais donc j'en ai fait plusieurs, mais après, autant je suis pas du tout quelqu'un qui fait beaucoup de post-production, c'est-à-dire que je privilégie la préparation de mes images, et sur le moment, je cherche, et d'ailleurs mes modèles rigolent toujours parce qu'elles me disent « ça se voit ton visage quand t'es pas convaincue ». Et tant que j'ai pas trouvé, je cherche, et quand j'ai trouvé, là, je sais que je suis convaincue, et là je dis « c'est bon, c'est la bonne, on arrête, c'est bon, je l'ai ». Donc voilà, mais donc c'est plus après une question de choix de sélection, mais en tout cas sur mes images, il y a quasi jamais de retouche.
L'exposition s'appelle « Un monde intranquille ». On trouve ces deux photos dans le premier espace, un espace qui s'appelle « Un monde si paisible ». Ces deux photos sont-elles si paisibles que cela ?
Je suis vraiment très très heureuse d'avoir été sélectionnée pour cette exposition parce que je trouvais que la thématique sur l'imaginaire, quand j'ai lu le synopsis, je trouvais ça vraiment passionnant et je trouve que toutes les photos exposées sont vraiment très très belles. Et je trouve ça effectivement très rigolo le fait qu'il y ait ce contraste entre ce côté paisible et intranquille parce que je pense que dans mes images, je suis sur plusieurs niveaux et que je joue sur ça. Et donc c'est pas si tranquille que ça parce que au premier abord, par exemple, sur la photo de gauche, elle ferme les yeux, et ça, j'aimais bien cette idée de « elle rêve, elle avec ses Barbies sur elle, elle rêve », mais en même temps, donc ça, c'est la, on va dire, la première lecture de l'image. On la voit en train de jouer avec des Barbies. Puis après, on se raconte d'autres choses. On se dit « ouais, mais donc, bah, elle attend, elle est célibataire, elle est toute seule. » Et donc là, il y a une deuxième sphère qui arrive au niveau des émotions, où on se dit « mais elle attend, donc elle est seule, donc elle est peut-être triste. » Donc il y a quelque chose d'inquiétant en deuxième partie. Et je trouve que ça, l'inquiétude se fait peut-être encore plus. Enfin, c'est pas inquiétude, mais celle avec la voiture rouge et le Ken qui arrive, elle est d'un côté très drôle, très décalée. Mais en même temps, il y a l'ombre. Le fait qu'on voit pas son visage aussi rapporte quelque chose, je trouve, d'un peu étrange. Et du coup, on cogite un peu sur ce qui se passe. Et puis il y a l'ombre qui est toute petite finalement, et ses jambes sont énormes, donc il y a souvent ce qu'on me dit, c'est bah, ce qui est marrant dans cette photo, c'est vraiment le jeu des échelles avec ses jambes, où elle paraît géante par rapport à la taille de la voiture, et du coup, ce côté étrange dû aux dimensions bizarres fait que ça devient étrange quand même, donc je trouve qu'il y a un peu des deux.